بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، donc nous allons traduire إن شاء الله تعالى la parole de Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi qui a eu lieu hier soir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, hafidhahullahu ta'ala, que Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, dit, voici ma voix, j'appelle à Allah, me basant sur des preuves évidentes, moi ainsi que ceux qui me suivent. Exempté soit Allah de tout défaut, et je ne suis point du nombre des associateurs. Certes, la prédication et l'appel à Allah et le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Et c'est également la voie empruntée par leurs suiveurs. C'est le plus grand de leur rôle. Et le prêcheur a une grande place. Certes, il fait sortir les gens du mal vers le bien, il fait sortir les gens, et c'est une cause pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de la mécréance vers la foi, du polythéisme vers l'unicité d'Allah. C'est une cause qui leur apporte le bonheur. Par sa cause, ils sortent du feu, de l'enfer, vers le paradis. Mais il ne faut pas oublier que la prédication repose sur de grandes bases. Et celui qui ne vient pas avec ses bases et ne fait pas reposer son prêche sur ses bases, son prêche sera faux et caduque. Donc parmi ces bases, il y a la science. Le prédicateur ne doit pas être ignorant de ce à quoi il appelle les gens. Sinon, il ne pourra être un prêcheur. Comme nous l'avons cité dans le verset passé, Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basira, avec clairvoyance. Que signifie la clairvoyance dans ce verset? La science. Donc, le prêcheur doit avoir de la science, il ne doit pas être ignorant. Car certes, les gens de l'égarement et les gens de l'innovation et les savants de l'égarement et des gens des passions viendront à lui avec des ambiguïtés, et ils vont débattre avec lui de par le faux qu'ils ont. Il devra donc absolument être armé de par la science afin de pouvoir prêcher avec science. Allah nous dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, et débat avec eux selon ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi cela? Afin de rendre caduques leurs preuves et de les réfuter de par la vérité que nous avons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh radiallahu anhu au Yémen, il lui a dit, tu vas te rendre à un peuple faisant partie des gens du livre. Pourquoi est-ce qu'il a attiré son attention sur cette chose-là? Les savants ont dit, si le prêcheur, le prédicateur n'est pas armé de science, alors ses ennemis parmi les gens de l'innovation et de l'égarement viendront à lui avec toutes sortes d'ambiguïtés. Comment est-ce qu'il pourra se tenir devant eux et les battre de par ses arguments et débattre avec eux et avoir les preuves de son côté s'il n'a pas de science? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention de Mu'adh radiallahu anhu sur le fait que ces gens-là sont des gens du livre pour l'informer qu'ils ont des ambiguïtés et qu'il lui fallait donc être savant de la situation. Et Mu'adh radiallahu anhu certes faisait partie des savants d'entre les compagnons radiallahu anhu. Et c'est ainsi également que le prédicateur doit, avec cette science, la mettre en pratique. Il doit appliquer ce à quoi il appelle les gens. Le prédicateur qui n'applique pas sa science, il ne lui convient pas d'être un prêcheur. Il appelle les gens au bien et lui-même ne le fait pas et il contredit ce à quoi il l'appelle comme bien. Ceci n'est pas valable et ne doit pas avoir lieu. Il doit plutôt être un exemple, un bon exemple pour les gens, que ce soit dans ses actions ou dans ses paroles, dans ce qu'il fait ou ce qu'il délaisse. Car si il n'agit pas en conformité avec ce à quoi il appelle, alors les gens n'accepteront pas de lui. Et c'est pour cela que Shu'aib alayhi salam dit à son peuple, et je ne veux pas vous contredire, dans ce à quoi je vous appelle. Shu'aib alayhi salam dit à son peuple qu'il ne veut pas délaisser ce à quoi il les invite. Je ne veux que la réforme autant que possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Il dit dans le Coran, donc selon la traduction, et qui profère de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes actions. Il appelle à Allah et fait de bonnes actions. Donc le prêcheur, le prédicateur, il doit mettre en pratique sa science. Et parmi les défauts et les mauvaises choses qu'on pourrait lui remarquer, c'est qu'il contredit ce à quoi il appelle les gens de par ses actions. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un homme qui viendra le jour de la résurrection. C'est une personne qui avait de la science. C'est une personne qui avait de la science, mais ne l'a pas appliquée. Dans le hadith de Usama ibn Zayd, il rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: au jour de la résurrection, on amènera l'homme et on le précipitera dans l'enfer, de sorte à ce que ses entrailles sortent de son ventre et il tournera autour de lui-même, comme un âne tourne autour d'une meule. Les damnés de l'enfer viendront chez lui et lui diront: qu'as-tu, ô un tel? Ne nous exhortais-tu pas, c'est-à-dire dans ce bas monde, à faire le bien et tu nous interdisais le répréhensible? Il leur répondra: certes, oui, je vous demandais de faire le bien et je ne le faisais pas moi-même. Je vous interdisais le répréhensible et je ne le faisais pas moi-même. Apporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Voici la punition de celui qui appelle à une vérité mais ne la met pas en pratique. Donc, le prédicateur doit appliquer ce à quoi il appelle les gens. Et c'est bien connu que ceux qui ont la science et ne l'appliquent pas seront châtiés avant les adorateurs des idoles. Et il fut dit, et le savant qui n'appliquait pas sa science sera châtié avant celui qui adorait autre qu'Allah. Après cela, après avoir cité la science, la mise en pratique, il faut absolument que le prédicateur soit sincère. Il faut absolument la sincérité dans le prêche. Il doit appeler les gens à la recherche du visage d'Allah. Il doit rechercher à travers cela la récompense de l'au-delà. Il ne veut pas ce bas monde. Il ne fait pas cela par ostentation ou pour entendre du bien, pour faire entendre de lui aux gens le bien ou qu'ils voient de lui le bien en recherchant leurs éloges. Non, mais il ne cherche pas non plus à être une tête parmi les gens, mais il recherche la sincérité, il recherche Allah seul, sans associé. Il ne recherche pas les bienfaits de ce bas monde à travers son prêche. Et c'est pour cela que tous les prophètes disaient à leur peuple: je ne vous demande aucun salaire. Ils les appelaient à Allah et leur disaient: je ne vous demande aucun salaire. Et certains parmi les prophètes disaient: je ne vous demande pas d'argent. Donc, voici une des bases sur laquelle doit reposer le prêche de la da'wa salafiyya, le prêche de ceux qui appellent au chemin, à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ajoutez à cela que le prédicateur doit commencer par les choses les plus importantes, avant celles qui sont importantes. Donc, il doit commencer par les choses les plus importantes. Et certes, la chose la plus importante est de commencer par la réforme de la croyance des gens, par l'unicité d'Allah. Appeler les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère. Appeler les gens à unifier Allah dans l'adoration seul, sans associé, et les mettre en garde contre le polythéisme. Celui qui meurt sur le polythéisme entrera éternellement en enfer, et cela pour toujours. Le polythéisme est très dangereux. Et le tawhid est la chose la plus importante. Le polythéisme, c'est la chose contre laquelle nous mettons en garde. Et l'unicité d'Allah est la première chose à laquelle nous invitons les gens. Voici la méthodologie et le chemin de l'ensemble des prophètes dans leur appel vers Allah. Tous ont dit, faisaient cela. Allah nous dit dans le Coran, donc selon la traduction, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Tout prophète est venu à son peuple pour lui ordonner cela. Que ce soit Hud ou Saleh, que ce soit Shu'aïb ou l'autre, que ce soit Mohammed ou bien Ibrahim, Moussa ou encore Isa, alayhimu salatu wassalam, tout cela, alayhimu salatu wassalam, ont ordonné à leur peuple d'adorer Allah uniquement et cela sans associer. Ils disaient à leur peuple: vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Tous ont appelé à cette parole. Et c'est ainsi qu'ils ont démontré aux gens la dangerosité du polythéisme. Il n'y a pas un prophète qui était envoyé avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne lui fût révélé la ilaha illa hu, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et que c'est donc lui, Allah, qu'il faut adorer. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction approximative: et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, si ce n'est en lui révélant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il ordonna à Mu'adh radiallahu anhu lorsqu'il envoya au Yémen. Il lui dit que la première chose à laquelle tu invites les gens soit la ilaha illallah, nulle divinité, ou bien le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, excepté Allah. Excepté Allah. Voici la chose la plus importante. Cela passe avant même la prière, la zakat, comme cela fut enseigné à Mu'adh. Après cela, il faut leur interdire les mauvaises choses, les choses blâmables. Mais ce qui est venu dans les textes, comme les piliers de l'islam et les autres préceptes de l'islam, ne sont venus qu'après la croyance, qu'après l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on tire de sa biographie, de sa vie. Il est resté, sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans à la Mecque. Et pendant ces 13 années, il a appelé les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah, à adorer Allah d'un culte sincère. Et il a interdit aux gens de commettre tout acte de polythéisme. Il n'a pas commencé par ordonner la prière, ni la zakat, si ce n'est après avoir enseigné et prêché au tawhid, à l'unicité d'Allah. Et beaucoup d'interdictions, comme Arriba, les intérêts, l'usure, comme Sariqa, le vol, beaucoup de choses a été interdit qu'après l'ordre du tawhid et l'interdiction du polythéisme, après avoir ancré ce fondement, après avoir ancré ce fondement, c'est-à-dire appeler les gens à la ilaha illallah et les mettre en garde contre le polythéisme. Ça n'est qu'après cela que beaucoup de préceptes de l'islam ont été révélés, après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque. Et de par la gravité et la dangerosité du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction: certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Sa demeure sera l'enfer et pour les injustes, nul secoureur. Quant à celui qui meurt sur le polythéisme, qui a associé à Allah, le paradis lui sera interdit. Comme cela nous fut cité par Abdullah ibn Mas'oudin, radiallahu anhu. Après que l'homme ait complété sa personne de par la science et la mise en pratique, la prédication et la sincérité, il lui est obligatoire de se montrer endurant. Pourquoi cela? Pourquoi citer l'endurance? Car tu vas rencontrer sur le chemin de la prédication de nombreuses difficultés. Tu vas te fatiguer et tu vas rencontrer des choses difficiles et des nuisances de la part des gens. Ne pense pas que le chemin de la prédication est semé de roses. Non, mais il est plutôt semé d'embûches et de difficultés. Et il y a des choses dangereuses que tu rencontreras. Et si nous regardons et si nous méditons la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous apercevrons les difficultés qu'il a rencontrées de la part de son peuple, comme nuisance, comme moquerie, comme insulte. Ils ont même tenté et voulu l'assassiner. Ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui et ils ont essayé de l'assassiner. Malgré tout cela, ou bien avec tout cela, lorsqu'il s'est apprêté à faire l'égir, ils se sont comploté, se sont unis afin de l'assassiner. Donc, celui qui rentre dans le chemin du prêche doit s'attendre à des nuisances. Et dans les versets du Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve ce que nous venons de citer, les moqueries qui nous sont relatées, les nuisances qu'il a reçues, ainsi que les insultes. Par moments, il disait de lui qu'il est fou. À d'autres moments, il disait que c'est un grand menteur. Il l'accusait et le soupçonnait de prendre la révélation d'un autre, de prendre la révélation d'un autre. Et quel fut le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tout cela? L'endurance, à la recherche de la récompense de la part d'Allah. Il se comportait avec eux avec excellence. Il leur recommandait le bien et il disait aux gens, est-ce qu'une personne peut m'amener à son peuple afin que je transmette la parole d'Allah? C'est ainsi qu'il réfutait, ou plutôt c'est ainsi qu'il répondait à leur nuisance avec l'endurance, avec l'endurance. Et c'est pareillement que doivent agir les suiveurs des messagers lorsqu'ils recevront les nuisances ou bien les difficultés. Et plus la personne suivra le chemin des prophètes dans leur prêche, plus il recevra des nuisances. Donc il nous faut prendre exemple sur ces gens-là, les prophètes alayhim, et les messagers alayhim salatu wa salam. Le prêcheur doit également, toi, ô toi le prêcheur, tu dois, ô toi celui qui étudie et qui recherche la science, tu dois t'orner du bon comportement. Tu dois être doté de nobles caractères et utiliser la sagesse lorsque tu invites les gens à Allah. Car si tu te comportes ainsi, cela témoignera de ton endurance, cela témoignera de ta sagesse. Et en général, celui qui arrive à avoir ces caractères, tels que l'endurance, seuls ceux qui arrivent à avoir ces nobles caractères sont les meilleurs des hommes. Les gens les plus complets sont ceux qui arrivent à endurer dans ces genres de situations. Il nous faut donc nous doter de ces nobles caractères et nous orner de patience et d'endurance. Il nous faut également avoir un bon comportement et de la sagesse lorsque nous invitons les gens à Allah. Car si les gens voient de ta part un bon comportement, de l'endurance, de la sagesse, alors ils accepteront ton prêche et tes paroles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et Haroun alayhim assalam, dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. À qui est-ce qu'ils vont s'adresser? De qui est-ce qu'il s'agit ici? Qui est-ce qui se rappellera peut-être ou craindra peut-être? Il s'agit de Pharaon. Celui qui sera invité à la vérité ici, c'est Pharaon, celui qui a prétendu avoir la seigneurie, le plus mécréant de son époque. Pourtant, Allah dit à Moussa et Haroun alayhim assalam, dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, selon la traduction, rends-toi auprès de Pharaon, il a certes transgressé. Dis-lui et parle-lui afin qu'il, ou bien dis, invite-le à se purifier. Dis-lui, est-ce que tu veux te purifier? Ou bien accepter que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Voici le prêche de Moussa à Pharaon et la sagesse utilisée. Quant à notre prophète, alayhi salatu wassalam, Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, et c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur ou bien rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les éloges de la part d'Allah sur son comportement et a été caractérisé par l'immensité et l'imminence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa innaka la ala khuliqin azim. Tu as certes un parfait comportement. Aussi, il lui a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche, dans son chemin, de faire preuve de sagesse et d'appeler les gens avec sagesse et avec la bonne exhortation. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans un verset sur la traduction, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux selon ce qu'il y a de meilleur. Après tout cela, si tu te montres endurant et que tu espères la récompense, il te faut absolument abandonner toutes tes affaires à Allah et ne compter que sur lui. Avoir une totale confiance en Allah et ne jamais désespérer. Ne jamais désespérer. Même si personne n'accepte la vérité que tu apportes, même si personne ne te porte secours, ne désespère pas du secours d'Allah et de recevoir son aide. Mais tu dois plutôt avoir la certitude qu'Allah va t'appuyer, qu'Allah va te secourir. Nuh, alayhi salam, a invité son peuple durant 950 ans à l'unicité d'Allah, à adorer Allah seul d'un culte sincère. Il a supporté leur nuisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il appela les gens de Taif, certaines personnes lui ont grandement nui. C'est alors que l'ange s'est présenté à lui. C'est alors que l'ange des montagnes s'est présenté à lui et lui a proposé, s'il le souhaitait, de prendre les deux montagnes et d'exterminer son peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, mais je vais plutôt me montrer endurant, en espérant qu'Allah fasse sortir de ces gens-là, de la descendance de ces gens-là, un peuple qui n'adorera qu'Allah seul, sans jamais rien lui associer. Donc le prédicateur qui suit la voie des pieux prédécesseurs doit connaître que le chemin sur lequel il est immense, c'est le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit se doter des qualités précédemment citées et faire reposer son prêche sur ses bases citées. Aussi, s'il se comporte ainsi, qu'il s'apprête à recevoir la récompense promise, qu'il s'apprête à recevoir le secours d'Allah, qu'il s'apprête à recevoir ce qu'Allah lui a promis comme raffermissement. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous cite cela dans le Coran selon la traduction. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et ceux-là, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran. Donc, voici une parole résumée relative à la prédication que j'adresse à mes frères parmi les étudiants. Ce prêche est un prêche immense ayant la plus grande importance et il repose certes sur de grandes bases. Nous les répétons et nous disons, nous devons commencer par la science, puis la mise en pratique. Avoir la sincérité et appeler les gens à la chose la plus importante, puis passer aux choses importantes. Nous devons nous montrer endurants devant les nuisances et les préjudices que nous ferons les gens, et nous orner et nous doter et endosser le vêtement du noble caractère, des bons comportements, de la sagesse. Après tout cela, nous devons avoir un fort espoir en Allah quant au secours pour ce prêche. Et nous ne devons jamais désespérer. Nous ne devons jamais désespérer, même en voyant les gens nous contredire dans cette voie. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ses serviteurs. Et nous nous arrêtons là. Et que la prière et le salut soient sur notre prophète ainsi que ses suiveurs et ses compagnons. Wa sallallahumma ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.